Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sur le lieu du carnage, une foule importante venue se recueillir. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement. D'heure en heure, fleurs et peluches s'accumulent aux abords du bâtiment calciné.
Des scènes de recueillement, des bougies, des peluches, des fleurs, des images vues à Moscou, des images similaires à celles entrevues à Paris après le Bataclan ou ailleurs, en souvenir et en hommage des victimes du terrorisme. La Russie pleure. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Cette semaine, exceptionnellement, retrouvez-nous dès 7h sur votre plateforme préférée, mais aussi sur leséchos.fr.
Je m'adresse à vous aujourd'hui à propos de l'acte terroriste sanglant et barbare. Les victimes étaient des personnes innocentes et pacifiques, des enfants, des adolescents et des femmes. Les mots de Vladimir Poutine après l'attentat perpétré au Crocus City Hall, une salle de concert dans la banlieue de Moscou. Le président russe réélu il y a quelques jours à la tête de l'État s'est adressé samedi à la télévision nationale. Il a annoncé que le 24 mars serait un jour de deuil national. Bonjour Benjamin Kennel.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant des Échos à Moscou. D'abord, quel est le bilan de cet attentat ?
Écoutez, aux dernières informations, il y a 144 morts. C'est un bilan provisoire. Il ne cesse de s'alourdir depuis samedi matin. Les sauveteurs sont toujours sur place en train de déblayer les tonnes de gravats. Et donc, le bilan pourrait être bien plus élevé. Il y a encore une centaine de blessés hospitalisés. On sait que le toit, après le feu, s'est effondré. Et donc, il y aurait encore des personnes et des cadavres à découvrir malheureusement sous les décombres.
Alors ce n'est pas une aiguille d'acier mais de la tristesse qui me transperce aujourd'hui la poitrine, une chanson du groupe Picnic qui devait assurer le concert au Crocus City Hall près de Moscou. La Russie est sous le choc après cet attentat. Benjamin, vous vous êtes rendu sur place près du centre commercial et de la salle de concert auprès des moscovites venus rendre hommage aux victimes.
Oui, alors cette salle qui est la plus grande salle de concert de Moscou, 6200 places. Tout avait été vendu, mais au moment de l'attaque, apparemment, il y avait entre 5 000 et 5 500 personnes. Elle ne se situe pas dans le centre de Moscou, mais un peu à la périphérie de Moscou, parce que ça fait partie d'un grand complexe moderne de centres d'affaires, de centres commerciaux et de centres culturels, de centres d'exposition aussi. C'est là où, par exemple, juste à côté de la salle de concert, il y a un grand espace où il y a régulièrement le salon de l'automobile ou le salon de l'agriculture. Voilà, c'est ce genre d'espace. Et malgré la distance, beaucoup de gens sont venus simplement du centre de Moscou, des autres régions, pour, depuis samedi matin, se recueillir devant la carcasse noircie de ce qui reste de la salle de concert. C'est un mémorial assez improvisé. Sur le trottoir, des fleurs, des bougies, des peluches et des ballons, parce qu'il y a quand même... Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des enfants qui sont morts et d'autres qui sont encore hospitalisés parmi les victimes. C'est un mémorial assez poignant parce qu'on voit peu les Russes aller se recueillir après des grands événements douloureux. Samedi, il y avait quelques dizaines puis centaines. Dimanche, c'était plusieurs milliers et ça s'organisait en une longue queue qui était très silencieuse et recueillie.
Et d'autres files d'attente se sont aussi constituées, mais cette fois-ci devant les centres de dons de sang, notamment à Moscou. Dès samedi midi, les autorités médicales ont annoncé avoir suffisamment de sang pour la centaine de personnes blessées dans l'attaque. Vous le disiez, Benjamin, on a pu voir aussi des messages sur de nombreux panneaux publicitaires avec ces mots « Nous sommes en deuil » et la date du 22 mars. C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière depuis la prise d'otage de l'école de Beslan en septembre 2004. Elle avait fait 334 morts. La Russie est en deuil, mais Vladimir Poutine a mis beaucoup de temps avant de s'exprimer, Benjamin.
Alors lui, en personne, il ne s'est pas rendu sur place, au caucus. Dimanche, dans l'après-midi, il a déposé et allumé un cierge dans l'église à côté de sa résidence près de Moscou. Ça a été largement photographié et filmé, montré à la télévision. Mais lui-même, le président, ne s'est pas rendu sur place dimanche, jour de deuil national. Et samedi, lendemain du drame, il n'est intervenu qu'à la mi-journée, 19 heures après l'attaque, pour une allocution télévisée assez solennelle, assez courte, où il s'est concentré sur, avant tout, après avoir donné, évidemment, exprimé ses condoléances, donner des informations sur l'avancée du travail des enquêteurs. Toujours une priorité pour Poutine, montrer que le système est efficace et donne des résultats, ce qui est assez contradictoire, parce que comme pour l'attentat du Bataclan en France, c'est avant tout un échec des services de sécurité. Là, il n'y a eu aucun mea culpa de la part de Poutine et des forces de sécurité. Au contraire, depuis hier, tout est mis en place pour montrer que les forces de sécurité sont à la tâche pour retrouver, arrêter les terroristes et pour relancer la lutte contre le terrorisme.
La police elle-même a filmé et diffusé les interpellations. Ici, quatre hommes sont arrêtés dans une voiture près de la frontière avec la Biélorussie. Les suspects sont torturés, l'un d'eux a l'oreille coupée. Il s'exprime sous la contrainte.
Il proposait un demi-million à peu près.
Un demi-million de quoi ?
De roubles.
Qui t'a donné l'argent ?
Je ne l'ai pas encore reçu.
5 000 $ pour commettre un massacre. Les aveux de 4 personnes arrêtées et suspectées d'être les auteurs de l'attaque, après une séance musclée avec les forces de l'ordre russes. Les images ont été floutées par TV5 Monde qui ont fait la traduction. Yves Bourdillon, vous êtes journaliste au service international des Échos. Que sait-on aujourd'hui des assaillants ?
Bien, on sait que ce sont 4 Tadjiks qui résidaient pour l'essentiel à Moscou sans travail et qui ont été arrêtés sur la route se dirigeant vers l'Ukraine, mais aussi le Bélarus, par la police samedi vers midi. On sait aussi qu'ils n'étaient pas très professionnels, contrairement à ce qui a été dit, parce qu'ils sont restés groupés pendant l'attentat, ce qui a limité heureusement les pertes, et qu'ils n'ont pas verrouillé les issues de secours, enfin les issues même, de la grande salle où étaient massées 6 200 personnes qui, pour la plupart, ont pu s'enfuir. Donc, on suppose que c'est des recrues plutôt bas de gamme, et on sait qu'ils sont d'origine tadjik et qu'ils ont des liens avec l'État islamique Khorasan, la branche afghane de l'organisation djihadiste qui a revendiqué l'attentat.
Est-ce qu'on est sûr que ce sont bien les 4 auteurs de l'attaque ?
Très probablement, parce qu'ils ont été filmés, plusieurs ont agi sans être masqués, donc on peut supposer que leur photo correspond à leur profil, et ils ont été arrêtés dans une voiture qui avait été repérée, qui les attendait à la sortie de l'assaut. Donc ils sont venus d'ailleurs avec une naïveté confondante, avec la même voiture avec laquelle ils sont repartis. Donc du fait qu'ils sont arrêtés avec des armes, des Kalachnikovs dans cette voiture et qui avait été filmé les attendant près de la salle de concert, oui, c'est eux.
Le carnage aurait pu être pire, sans l'héroïsme d'ailleurs de certains employés. L'AFP raconte dans une dépêche publiée lundi comment 2 adolescents de 15 ans qui travaillaient dans les vestiaires du Crocus City Hall ont fait sortir plusieurs dizaines de personnes par une porte dérobée. On entend l'un des jeunes hurler « Par là, tout le monde par là !» Il s'appelle Islam Khalilov. Il est musulman et il devrait recevoir, selon l'agence TASS, une décoration de la part de la Direction spirituelle des musulmans de Russie, une importante organisation religieuse. Il s'est confié dans une vidéo. Il dit n'avoir fait que son travail et ne se considère pas comme un héros, avant d'ajouter ceci.
Mieux vaut se sacrifier
que de laisser mourir des centaines de personnes. L'attentat a été revendiqué par Daesh, mais le Kremlin continue de pointer du doigt l'Ukraine. Pour quelle raison, quel avantage Vladimir Poutine peut-il en tirer ?
Assez simplement, d'abord, l'Ukraine et la totalité du récit du Kremlin en ce moment est tournée vers cette guerre. Et cet attentat brise deux récits précisément du Kremlin. Le premier, c'est que la Russie n'aurait pas un seul ennemi qui serait l'Occident ou l'Ukraine, mais en aurait un autre qui était un peu oublié et dont le Kremlin ne parlait plus, qui sont les djihadistes. Et puis surtout, la clé du contrat entre le Kremlin et la population russe, c'est qu'il a apporté la sécurité et qu'il n'y avait plus d'attentats d'ampleur depuis 2004. Donc cet attentat, qui est le plus considérable depuis 20 ans, vient briser ce récit. Donc le meilleur moyen, le seul, pour le Kremlin de reprendre le dessus en matière de communication, c'est de dire que c'est l'Ukraine qui est leur obsession.
Ah, Yves, c'est tout de même un attentat qui porte la marque du groupe islamiste.
Évidemment, d'abord parce qu'il a été revendiqué par Daesh et on sait que Daesh ne revendique jamais d'opérations qu'il n'a pas commis. Et un canal authentique de communication, c'est très important parce que le grand public l'ignore, mais quand des terroristes agissent, ils veulent pouvoir prouver que c'est eux et non pour ne pas laisser des concurrents usurper en quelque sorte la responsabilité d'un attentat. Et donc, ils donnent des détails que eux seuls peuvent connaître à la police. Donc, le canal de communication de Daesh est très fiable depuis des années et quand Daesh dit quelque chose, malheureusement, généralement, c'est exact. Et puis, le mode opérationnel signe une opération djihadiste, c'est-à-dire mitrailler un lieu public avec un petit groupe de combattants prêts à mener une opération, en gros, kamikaze, parce que c'est assez incroyable que les assaillants de vendredi aient pu s'en sortir vivants et même s'échapper. Et puis, opérer un vendredi, comme ça a été fait en France pour le Bataclan. Donc, tous ces éléments-là pointent évidemment un mode opératoire djihadistes, comme d'ailleurs nous l'ont confirmé aux correspondants des Échos et à moi-même, nos contacts en Russie spécialistes de ces questions-là, mais qui évidemment ne parlent pas officiellement puisque c'est contraire au récit du Kremlin.
Oui, avec une volonté de tuer là des chrétiens, hein, c'est ce qui est expliqué dans les revendications de l'État islamique. Vous dites que c'est assez incroyable qu'ils ont pu sortir de cette salle presque sans encombre, presque sans être inquiétés. Là aussi, pour les services de sécurité, c'est un camouflet ?
Totalement, puisque d'une part, ils avaient reçu des renseignements, y compris des États-Unis qu'ils n'ont pas pris au sérieux. Ils n'ont pas réussi à les arrêter, ils n'ont même pas réussi à leur tirer dessus. Il n'y a pas eu d'échange de coups de feu entre des policiers, cette salle gigantesque, alors que Moscou est truffée de policiers. Ils n'avaient pas de gardes nombreux à l'entrée, il y en avait un seul qui a été abattu. Les gardes d'une société privée à l'entrée étaient non armés. Donc c'est un échec monumental des services de sécurité russes. Et on peut multiplier aussi les loupés dans l'opération. Ils ont quand même mis 12 heures à les repérer sur une autoroute qui est filmée, alors qu'ils avaient tout un tas de signalements.
Mais où était la police ? Où étaient les forces de sécurité ? Il n'y aura sans doute pas de débat public sur cette question en Russie. Dans la salle, les spectateurs n'ont pu compter que sur eux-mêmes. Et l'AFP toujours raconte que l'un d'entre eux est parvenu à désarmer un des terroristes à main nue. Il a profité du fait qu'il était en train de recharger son arme pour lui porter un coup à la tête. En attendant, le Kremlin refuse toujours de commenter la revendication de Daesh, prétextant que l'enquête est toujours en cours. Benjamin, vous êtes allé, vous, à la rencontre des habitants de Moscou. Après cet attentat, qui les Russes de la rue incriminent-ils ? Kiev ou Daesh ?
Alors, il faut faire très attention à ce que disent les gens dans la rue. Il ne faut pas oublier que même avant la présidentielle, même avant le début de l'opération militaire spéciale, les Russes faisaient attention à ce qu'ils disaient vraiment publiquement. Donc, il peut y avoir une grande différence entre ce que les gens pensent et ce que les gens disent, entre ce que les gens disent chez eux dans la cuisine et ce qu'ils vous diront dans la rue à un journaliste ou à un sondeur. Le message à la télévision de Poutine et des autres autorités, c'est d'entretenir la confusion avant tout. Ils ne parlent pas publiquement de la revendication par l'État islamique. Ils ne disent pas ouvertement que les responsables sont les Ukrainiens, mais ils entretiennent le doute en injectant à demi-mot plusieurs accusations qui font croire à l'homme de la rue, à la femme de la rue, que Kiev est derrière cet attentat. Et donc, du coup, le message passe via la télévision, via les réseaux sociaux, et beaucoup de Russes pensent du coup que les commanditaires sont des Ukrainiens.
Pour les enquêteurs russes, une question: qui sont les responsables de l'attentat? Selon la chaîne Telegram Baza, réputée proche du pouvoir, 4 suspects entre 29 et 51 ans ont été identifiés, tous originaires du Tadjikistan. De son côté, le groupe État islamique a rapidement revendiqué l'attaque.
L'État islamique a publié justement une vidéo des terroristes juste avant qu'ils ne passent à l'attaque au Crocus City Hall. Yves, pourquoi Daesh s'en prend-il à la Russie ?
Il y a un très vieux contentieux lié au fait que le régime de Poutine a attaqué les djihadistes en 1999 en Tchétchénie, avant même que Daesh n'existe. Et à vrai dire, Daesh d'abord s'en prend au monde entier parce que tous les régimes sont impies, sont mécréants, chrétiens, mais aussi même des pays musulmans ne sont pas des régimes suffisamment islamisés à leur goût. Donc en fait, Daesh s'en prend au monde entier. Ils ont attaqué, j'ai fait des comptes, près de 48 pays ont subi des attentats plus ou moins grands de Daesh depuis 15 ans, mais la Russie en particulier, parce que la Russie, à cause de la Tchétchénie, elle a été impliquée aussi en Syrie, quoique de manière ambiguë, mais elle a quand même attaqué des djihadistes et des gens de Daesh. Donc il y a cet élément-là, puis il y en a un autre, c'est une opportunité, c'est-à-dire que Daesh peut recruter dans l'Asie centrale, au Tadjikistan, qui est un pays travaillé par le fondamentalisme islamiste, et il y a beaucoup de Tadjiks, près de 500 000 à Moscou, donc il y a une base de recrues assez large.
Laissez-moi vous rappeler les récentes déclarations franchement provocatrices d'un certain nombre de structures officielles occidentales sur la possibilité d'attentats terroristes en Russie. Tout cela s'apparente à un pur chantage et à une intention d'intimidation et de déstabilisation de la société.
C'était quelques jours après sa réélection et quelques jours aussi avant l'attentat du Crocus Center. Vladimir Poutine balayait d'un revers de la main les avertissements des renseignements américains face à un risque d'attentat en Russie émanant de la branche afghane de l'État islamique. Yves, occupée à l'ouest, la Russie a-t-elle fini par oublier le risque terroriste au sud-est de son territoire ?
Très clairement, les forces de sécurité et de renseignement russes sont accaparées par l'Ukraine depuis 2 ans et mettent le paquet au détriment d'autres cibles. Elles ne peuvent pas mobiliser à l'infini des ressources. Donc c'est l'Ukraine la priorité. Et derrière, c'est même pas les djihadistes, c'est les manifestants pacifiques pro-Navalny. Donc on voit bien d'ailleurs que les manifestants devant le mémorial Navalny pouvaient être arrêtés en quelques minutes, alors qu'ils ne menacent pas la société russe. Mais pendant ce temps-là, les djihadistes, effectivement, pouvaient en profiter. Ça fait 2 ans que cette menace-là est absolument pas prioritaire pour le FSB et les différents organes de sécurité.
Et vous parliez d'une immigration tadjik importante. La Russie a aussi beaucoup misé ces dernières années sur l'immigration, notamment venue d'Asie centrale, pour faire face à un déclin démographique annoncé.
Oui, en effet, la présence des Tadjiks, mais aussi d'autres pays d'Asie centrale, s'explique en Russie, enfin dans les grandes villes, par le fait qu'ils font tous les petits boulots, les boulots pourris en quelque sorte, ou du moins les boulots que les habitants, les autochtones ne veulent pas faire, comme dans un paquet de pays dans le monde, y compris en Europe occidentale. Donc effectivement, il y a là une population nombreuse qui est d'origine musulmane, comme 15% de la population des citoyens russes, mais il y a aussi de nombreux Tadjiks qui sont surnommés les nègres, les tchornis, enfin les Tadjiks, mais aussi des habitants du Caucase et d'Asie centrale par les habitants de Moscou.
Dans le ciel, le système de défense anti-aérien intercepte les missiles et les drones russes. En tout, selon l'armée ukrainienne, 43 engins ont été interceptés dans la nuit de samedi à dimanche, sur les 57 lancés en direction de la capitale et de Lviv, située complètement à l'ouest du pays.
Pendant ce temps, la guerre se poursuit, hein, comme on l'entend ici sur France 24. Les habitants de Kiev ont de nouveau dû chercher refuge dans les abris souterrains. Yves, quelle incidence cet attentat odieux peut-il avoir sur le cours de la guerre en Ukraine ?
Paradoxalement, pas énorme, parce que évidemment, Poutine va essayer d'en prendre prétexte pour renforcer le verrouillage intérieur et encore plus réprimer l'opposition au motif qu'il y a des traîtres et qu'il faut que se rallier autour du drapeau. Mais sur le plan militaire, d'abord, je ne crois pas que ça sera un prétexte à des bombardements accrus, tout simplement parce que l'armée russe est déjà au taquet en matière de bombardement, et si elle ne fait pas plus depuis le début, c'est qu'elle ne peut pas. Personne ne se bat avec une main dans le dos dans ce conflit. On voit bien les salves, par exemple, vendredi matin, étaient la plus importante depuis des mois, mais pour autant, la Russie ne peut pas tirer des centaines de missiles chaque jour parce qu'elle n'a plus suffisamment en stock, même si elle en produit malgré les sanctions occidentales. Et puis, pour ce qui est éventuellement d'un prétexte à mobilisation, si Poutine a besoin de mobiliser, il aurait pris cette décision avant. Enfin, il n'a pas besoin de cet attentat pour justifier cela. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment en Russie, il y a probablement, les sondages évidemment ne sont pas fiables, mais des enquêtes de spécialistes assez pointus comme Vera Grantseva, une Russe qui travaille en France et qui avait fait un excellent livre que nous avons chroniqué, explique qu'en gros, il y a un tiers qui est totalement apathique, un tiers de Russes qui est à fond derrière le Kremlin et qui n'a pas besoin de l'attentat pour pousser à une mobilisation accrue, et un tiers qui pense que cette guerre n'est pas légitime et qui, à vrai dire, ne changera pas d'avis en raison des explications du Kremlin, parce que tout simplement, ils ne les croiront pas. Donc ça n'aura pas forcément un impact très fort sur le plan militaire.
Benjamin, un dernier mot. Cet attentat intervient dans l'ivresse de la victoire de Poutine à la présidentielle. Quel impact pourrait-il avoir aussi aujourd'hui sur la vie des Russes?
Alors, ivresse toute relative, 87% de voix pour Poutine, mais avec quand même beaucoup de doutes et de remises en question sur la réalité de ces chiffres, sur l'ampleur de cette victoire. C'est un fait que dès le lendemain de sa victoire, Poutine était sur la place Rouge pour un grand discours patriotique. Deux jours après, il était devant les hauts dirigeants du FSB, les forces de sécurité, pour les féliciter de leur long travail pour défendre la souveraineté et la sécurité du pays. Et cinq jours après l'élection, deux jours après cette déclaration FSB, il y a cet attentat. Donc les Russes qui ont un esprit critique pourraient quand même se poser des questions. La plupart vont simplement, comme d'habitude, être passifs et pragmatiques et vont se contenter de répéter ce que dit la télévision. Donc la remise en question du pouvoir et des autorités, pour le moment, ce n'est pas l'actualité. Au contraire, on pourrait anticiper un durcissement du régime, comme c'est souvent le cas après les attentats en Russie. Il faut se souvenir qu'il y a 20 ans, après l'attentat à Beslan, après la prise d'otage de l'école de Beslan, pour renforcer la sécurité du pays, Poutine avait, parmi ses premières mesures, annulé l'élection directe des gouverneurs de région. On ne comprend pas bien le lien avec l'attentat de Beslan, mais toujours est-il que ça a été une relance du durcissement du régime et du renforcement de la verticale du pouvoir. Beaucoup d'observateurs anticipent un pareil durcissement aujourd'hui, qui pourrait prendre plusieurs formes, des lois plus strictes contre les terroristes, évidemment, mais aussi contre l'immigration, puisque les quatre suspects sont d'origine tadjik, et possiblement un retour à la peine de mort également, puisque c'est comme après chaque attentat, c'est les appels se multiplient pour un retour à l'appel de mort, mais il pourrait y avoir aussi, ça pourrait aussi servir de justificatif pour restreindre un peu plus encore la liberté, les libertés civiles, la liberté d'expression, et ça pourrait aussi, si les Ukrainiens sont finalement pointés du doigt comme les responsables de cet attentat, justifier une intensification du conflit en Ukraine et peut-être une deuxième vague de mobilisation militaire.
Merci Benjamin Quesnel, correspondant des Échos à Moscou, et merci Yves Bourdillon du service international des Échos. Cet épisode a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Retrouvez tous les articles d'Yves et de Benjamin sur le site leséchos.fr. Et pour prolonger votre expérience et profiter de l'essentiel de l'actualité, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien dans la description de cet article ou en vous rendant sur abonnement.leséchos.fr/lastory.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.